Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Et je pense que je peux parler pour Noémie et pour moi en affirmant qu'aujourd'hui, ça nous fait encore plus plaisir parce que ben c'est notre premier épisode retour après les vacances. Bon, c'est clair qu'on n'est pas de retour à toutes les semaines, mais quand même, pour le mois de septembre, on va se retrouver pas mal plus qu'on s'est vu dans les dernières semaines, puis ça, ben ça nous rend vraiment contentes. Oubliez pas qu'on est quand même assez active sur Instagram, TikTok, name it, et que, ben, on vous promet aujourd'hui, maintenant, là, en direct, que dans les prochaines semaines, ça va être encore plus garni, plus actif sur nos réseaux sociaux, donc venez faire un petit tour, nous suivre, Crime et Cocktail Podcast. Crime avec un S, E-T, Cocktail avec un S, Podcast. Et ben c'est ça, venez nous suivre, s'il vous plaît!
S'il vous plaît, on va y aller avec les moments what the fuck de la semaine.
Pour ma part, le moment cette semaine qui m'a fait dire non mais what the fuck, c'est quand Jess et moi, on est allés au festival Podcrime et en route, on voulait écouter des throwbacks années 2000. Moi et Jess, on adore faire ça pour nous déstresser. On a fait ça à la journée de son mariage aussi avant de se préparer. Et j'ai demandé à Siri de mettre throwback années 2000. Et ce qui a joué, c'est la chanson « L'escalier » de Paul Piché, qui était une des chansons préférées à mon père. Et en fait, on écoutait ensemble quand il était à l'hôpital dans les dernières heures de sa vie. J'avais demandé « Ah, quelle chanson t'aimerais écouter? » Et cette chanson-là a été une d'elles. Là, c'est ça, tu sais, je comprends que... Il peut avoir des bugs avec Siri, avec la technologie et tout. C'est juste que je vois pas le lien entre Throwback années 2000 puis Paul Piché, L'escalier. C'est pas non plus, tu sais, c'est pas comme si c'était dans les années 2000 que la chanson L'escalier est sortie de Paul Piché. C'est pas le même style du tout de musique. On s'entend qu'on est très loin de Toxic de Britney Spears. Donc, j'aime ça croire que c'était juste mon papa qui venait me dire allô à sa façon pour me souhaiter bon succès, comme qu'il aimait me le dire pour le festival et d'avoir du fun. Il me disait tout le temps ça. L'important, c'est que tu fasses de ton mieux et que tu aies du fun. Et c'est ce que j'ai fait. Toi, Jess, c'était quoi ton moment qui t'a fait dire « what the fuck » cette semaine?
Je pense que si ça avait pas été du fait que ça aurait été le moment what the fuck de Noémie, ça aurait probablement été le mien parce que ben, j'étais dans la voiture avec elle, ça a été tout simplement un moment absolument magique. J'ai eu des frissons partout, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je pense que je vais comme rebondir sur le pot de crime puis je vais dire que mon moment what the fuck c'était juste de vous rencontrer, de vous voir puis ben de vous retrouver aujourd'hui, d'être au micro puis de repartir la machine. Justement, parlant de repartir la machine, ben j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va nous mener tout ça parce que ben c'était la première fois qu'on participait à un événement de cette envergure-là, de ce genre-là, et surtout ben c'était la première fois qu'on se retrouvait tous entre fans du noir. Et ben c'était la première fois aussi qu'on avait la chance de rencontrer nos auditeurs, vous, avec qui on aime tant interagir dans les commentaires, dans les DMs. C'était vraiment spécial pour nous de vous rencontrer en personne, de vous serrer la pince, en fait, juste de vous serrer dans nos bras, d'échanger. On en a appris sur votre vie, vous nous avez montré des photos de vous. C'était tellement le fun parce que ça a vraiment rendu l'expérience plus tangible. Tu sais, des fois, électroniquement ou à distance, comme on dit avec le nouveau vocabulaire depuis la COVID. C'est vraiment différent qu'en présentiel, fait que ça nous a fait vraiment plaisir, ça nous a vraiment impacté positivement, ça nous a énergisé de vous rencontrer, fait qu'on a juste vraiment hâte de vous revoir, puis on le dit, on le redit, si jamais vous marchez dans la rue, puis ça donne que vous nous croisez, vous nous reconnaissez, s'il vous plaît, venez nous voir, tout ce qu'on veut, c'est vous serrer la pince, vous jaser, en apprendre sur vous, puis ben surtout échanger sur tout, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager, parce que c'est bien le fun, les DMs, on adore quand vous slidez dans les DMs, mais on va se dire, il n'y a rien comme un bon vieux contact humain puis connecté ensemble. Puis on a juste hâte de le faire, d'autant plus dans l'avenir avec vous.
Sur ce, on va relaxer avec un petit cocktail. Jess, qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
Aujourd'hui, on boit un crépuscule et on dirait un crépuscule du lac Saint-Jean. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste parce que ben, c'est le lac préféré de tous les Québécois, right? Dans notre crépuscule du lac, on va mettre 2 onces de bourbon, 1/2 once de liqueur de mûre pour avoir une petite couleur un peu riche, sombre. On va également ajouter un demi-once de sirop d'érable. Ben, on a-tu vraiment besoin de vous donner une raison d'ajouter du sirop d'érable dans votre cocktail? On va ajouter aussi 3 traits de bitters. Et on va mélanger le bourbon, la liqueur de mûre, le sirop d'érable, les bitters dans un verre à mélanger avec de la glace. On va shake, shake, shake. Et on va filtrer dans un verre old fashioned avec un gros glaçon. On vous conseille de garnir avec une mûre fraîche, un zeste d'orange, n'importe quoi pour ajouter une petite touche visuelle pour rendre votre cocktail instagrammable. Je vais donner une note de 6.8 parce qu'on le sait, je l'ai déjà dit, le bourbon, tous ces alcools-là, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais avec la liqueur de mûre, le sirop d'érable, je dois avouer que ça se prend quand même bien. Ça se rapproche du 7, là, c'est quand même pas si pire. Fait que voilà, 6.8, note finale.
Ma note pour le cocktail, moi personnellement, j'aime beaucoup ça, les liqueurs brunes. Je l'avais déjà dit dans des épisodes précédents. Je suis vraiment quand même fière du résultat. Je donne un bon 7 sur 10. Ouais, moi, c'est vraiment tombé dans mes palettes. Généralement, j'ai plus de difficultés avec les cocktails qui ont du sirop d'érable, sirop simple, mais juste quand c'est en grosse quantité. Ça vient vraiment équilibrer les bitters, le bourbon. On se rappelle, je suis pas une professionnelle. En fait, nous ne sommes pas des professionnels de la mixologie. On aime juste vraiment ça, les cocktails, puis jouer avec les arômes différents pour créer des cocktails. Je trouve que là, on a réussi quand même bien. 10 sur 10, non, mon Dieu. 7 sur 10 pour le crépuscule du lac.
À ça, il me reste une seule chose à dire. Cheers!
Chin, chin!
Non, de quoi tu me parles aujourd'hui?
Comme vous le savez tous, Jess, chers auditeurs, j'adore l'océan. Tout ce qui touche à l'océan, ça me passionne. Et en fait, ça l'irradie jusqu'à n'importe quelle étendue d'eau. N'importe quelle chose qui a rapport avec de l'eau, je capote ben raide, comme on dirait en bon québécois. Donc aujourd'hui, je vais nous transporter encore une fois dans une petite aventure maritime, mais cette fois-ci, par exemple, on va quitter les eaux turquoises et on va aller dans des eaux brumeuses du lac Lanier. Derrière l'apparence tranquille du lac Lanier se cache un des réservoirs les plus fascinants et probablement les plus troublants de Géorgie, je dirais même des États-Unis. Il a été créé en 1956 avec la construction du barrage de Buford et c'est vraiment un géant aquatique qui s'étend sur 38 000 acres. Mais aujourd'hui, à Crème et Cocktail, on ne s'intéresse pas nécessairement à sa grosseur. Ce ne sont pas simplement ses dimensions qui intriguent les gens à travers le monde. En fait, sous ces eaux-là se cache une histoire empreinte de mystère et de controverse. Avec ses 692 milles de rivages, ce lac-là, nommé en hommage au poète Sidney Lanier, a vu bien des choses se dérouler sur ses rives. Tandis que l'armée américaine a utilisé et utilise encore ses eaux pour contrôler les inondations et produire de l'énergie, chaque goutte qui s'échappe du barrage semble murmurer des secrets d'un autre temps. Attention, parce que le lac Lanier ne se résume pas juste à une masse d'eau. Chaque été, lorsque son niveau baisse, ce réservoir-là révèle bien plus que son lit asséché. Et j'ai aucun doute que si ce lac avait une histoire à raconter, elle commencerait sans doute ainsi. Ce que vous voyez n'est que la surface. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont Wikipédia, CNN.com, Medium.com, AllThat'sInteresting.com, ListVerse.com, CASimClean.com et Reddit. Avertissement, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder des sujets sensibles, y compris le racisme, lynchage et la violence raciale. Les événements qui sont décrits sont douloureux et peuvent être difficiles à entendre, donc on vous encourage à écouter avec prudence. Pour en revenir à la taille du lac Lanier qui est situé plus précisément dans la partie nord de la Géorgie, juste pour vous donner une idée, les 38 000 acres, soit l'équivalent de 150 km² d'eau scintillante, ça représente une surface près de 20 fois plus grande que l'île de Manhattan. Ce n'est pas seulement la taille qui impressionne, mais aussi les 1100 km de rivage qui serpentent autour du lac, c'est une distance équivalente à celle d'un aller-retour entre Montréal et Toronto. Ces eaux, qui sont alimentées par les rivières Chattahoochee et Chestetee, forment un lac dont la capacité maximale atteint 326 mètres au-dessus du niveau de la mer, une hauteur vertigineuse pour un réservoir artificiel. Mais c'est pas tout. En longeant ces berges, on découvre un paysage aussi diversifié qu'impressionnant. À certains endroits, les rives sont escarpées, s'élevant abruptement au-dessus de l'eau, tandis qu'ailleurs, elles peuvent s'étirer en plages de sable fin, invitant la détente. Les forêts environnantes, qui sont denses et verdoyantes, semblent se pencher littéralement sur le lac, créant une atmosphère à la fois sereine et mystérieuse. Le lac Lanier, c'est pas qu'une simple étendue d'eau, c'est un paysage qui est en constante évolution. Selon les saisons, son niveau fluctue, se remplissant durant les mois d'hiver et de printemps pour ensuite diminuer en été. Pendant cette période-là, les secrets cachés sous sa surface refont parfois surface, comme si le lac lui-même respirait au rythme des saisons. En moyenne, le corps des ingénieurs de l'armée libère environ 18,5 milliards de litres par jour du barrage de Buford pour la production d'énergie et pour maintenir le débit de la rivière Chattahoochee en faveur des utilisateurs en aval et de l'habitat des espèces en danger. En revanche, le côté de Gwinnett puise en moyenne 246 millions de litres par jour du lac Lanier pour fournir l'eau potable à ses entreprises et à ses environ 800 000 habitants. Au fil des années, les responsables de la gestion de l'eau et des politiques du comté ont déployé des grands efforts pour planifier l'utilisation optimale de cette précieuse ressource-là afin de répondre aux besoins en eau. Tout ça pour vous dire que le lac Lanier joue un rôle central dans la vie quotidienne de milliers de personnes tout en étant un acteur clé dans la préservation des habitats naturels. C'est un équilibre qui est délicat où la gestion de l'eau doit constamment s'ajuster aux besoins humains et environnementaux, rendant ce lac-là aussi indispensable que fascinant. Malgré tout ça, et malgré qu'aujourd'hui c'est un lieu de loisirs apprécié par des millions de visiteurs, c'est aussi le témoin silencieux d'une histoire sombre et complexe. Chaque année, près de 8 millions de personnes affluent vers le réservoir, profitant de ses 68 parcs, 1200 emplacements de camping et 10 marinas. Avec un impact économique annuel estimé à 5,5 milliards de dollars en 2000, et une production d'électricité dépassant les 97 millions de dollars depuis 1957, le lac Lanier, c'est un véritable pilier de la région. Pourtant, la création du lac en 1956 a coûté bien plus que les 45 millions de dollars nécessaires à l'achat des terres et à la construction du barrage de Buford. Avant que les bulldozers n'entrent en action, les terres qui allaient devenir le lac Lanier abritaient des communautés, des cimetières et des vies entières. Pour faire place au lac, le gouvernement a dû déplacer 250 familles, 20 cimetières, 15 entreprises et 6 églises, engloutissant sous les eaux des morceaux d'histoire qui ne devraient jamais être oubliés. Parmi ces terres-là se trouvait Oscarville, une ville en majorité noire, profondément marquée par l'injustice raciale. Le comté de Forsyth, où se trouve aujourd'hui le lac, abritait au début des années 1900 une communauté noire prospère, composée de près de 1100 résidents, dont 58 propriétaires terriens. Cette communauté était le reflet d'une réussite et d'un espoir pour de nombreuses personnes noires dans la région qui étaient encore marquées par les cicatrices de la guerre civile. Malheureusement, en 1912, tout ça a basculé. Cette année-là a été marquée par deux événements tragiques. Le premier s'est produit en fin août, lorsque le corps de Sleety Mae Crow, une femme blanche de 18 ans, a été retrouvé dans les bois près d'Oscarville. Bien qu'aucune preuve tangible ne désignait les habitants noirs comme coupables, des hommes noirs comme Ernest Knox et Robert Edwards ont été arrêtés et accusés par des habitants blancs, sans preuve et encore moins avec un procès équitable. Les tensions raciales, déjà vives, ont explosé lorsque des rumeurs amplifiées par les journaux ont circulé prétendant que les personnes noires menaçaient de dynamiter la ville en cas de lynchage. C'est important de préciser qu'aucun habitant noir n'a fait ces menaces-là. Tout ça vient des habitants blancs et même à ça, les habitants noirs ont littéralement été provoqués par les habitants blancs, donc c'est normal qu'ils se disent « Ok, ben moi mes limites sont là, si vous faites ça, nous on va riposter. » Bref, on va continuer. La tension qui était entre les communautés noires et blanches, qui était déjà palpable, a atteint son paroxysme. Il y a une foule blanche en colère qui a déferlé sur les résidents noirs, brûlant leurs maisons, leurs commerces, battant et terrorisant ceux qui ne fuyaient pas assez vite. Le 7 septembre, le shérif William Reed a arrêté Ernest Knox et Oscar Daniel, deux jeunes adolescents noirs accusés du meurtre de Sleety Mae Crow. Avant même que la justice ne puisse faire son travail, une foule enragée a pris les choses en main, lynchant publiquement Robert Edwards, un adolescent. Deux autres adolescents noirs, Ernest Knox et Oscar Daniel, ont été pendus devant une foule de 5000 personnes dans une démonstration de haine et de violence qui allait marquer le comté de Forsyth pour toujours. Suite à ces événements-là, la communauté noire a été quasiment effacée du comté de Forsyth sur les près de 40 propriétaires terriens noirs. Seuls 24 ont réussi à vendre leurs terres. Pour les autres, il n'y a aucune trace de vente, laissant croire que leurs terres ont été simplement prises par les résidents blancs. Oscarville, jadis une communauté dynamique et florissante, a été effacée de la carte par l'intolérance raciale et la cruauté des habitants blancs qui ne pouvaient pas tolérer la réussite et l'épanouissement de leurs voisins noirs. Cette haine aveugle a conduit à la destruction brutale de la communauté et, en dépit des événements tragiques et de la terreur raciste, le meurtre de Sleety May Crow est resté non résolu, prouvant que la quête des habitants blancs n'était pas une véritable recherche de vérité, mais plutôt une couverture pour la violence et la volonté d'éliminer leurs voisins noirs de la région. Des décennies plus tard, dans les années 50, le gouvernement a planifié la construction du lac Sydney-Lanier pour répondre aux besoins croissants en eau et en énergie de la ville d'Atlanta. À l'époque où la construction du lac Lanier a été décidée dans les années 50, il restait effectivement des résidents à Oscarville. Bien que la majorité des résidents noirs aient été expulsés ou aient quitté la région après les événements de 1912, certains avaient encore des liens avec les terres de l'ancienne communauté et des membres de famille étaient encore présents dans les environs. Le gouvernement a procédé à l'achat et au déplacement des résidents restants pour faire place au lac. Les estimations varient, mais c'est documenté que le processus a impliqué le déplacement de plusieurs familles, bien que le chiffre exact puisse être sujet à débat en raison des lacunes et des archives disponibles qui sont biaisées. Les familles ont été informées qu'elles devaient quitter leur terre pour faire place au réservoir, mais beaucoup ont reçu des notifications tardives ou ont été poussées à partir sous pression. Les délais étaient souvent très courts, laissant peu de temps pour organiser un déménagement adéquat. De nombreux résidents ont dû partir précipitamment sans avoir trouvé de logement de remplacement convenable. Certains témoignages locaux et récits historiques indiquent que les communautés, particulièrement les communautés noires comme celle d'Oscarville, ont été confrontées à une expulsion brutale. Les personnes ont été menacées et il semble que les bulldozers et autres équipements de construction aient commencé leur travail avant que la majorité des résidents n'aient quitté la zone. Il y a des récits de l'époque qui parlent de familles qui ont vu leur maison et leur terre rapidement envahies par les machines alors qu'elles étaient encore en train de déménager. Pendant la création du lac, les ingénieurs du corps des ingénieurs de l'armée américaine ont dû faire face à une tâche complexe, déplacer non seulement les habitants, mais aussi les lieux de sépulture. C'est bien documenté que l'inondation a commencé avant que toutes les structures et cimetières ne soient complètement déplacées. Les familles se sont retrouvées avec des biens encore non déménagés et des sépultures laissées derrière elles. Les experts en gestion de l'eau de l'époque avaient une vue plus pragmatique axée sur le calendrier de la construction, ce qui a conduit à une gestion précipitée et inefficace et inhumaine du déplacement des biens et des infrastructures. Certains corps n'ont jamais été déplacés, soit par négligence, soit par manque de temps. Des ossements ont été retrouvés dans le lac, flottant à la surface ou échoués sur les rives longtemps après que l'eau a recouvert la région. Les églises, qui étaient souvent les centres des communautés locales, ont également été victimes de cette précipitation-là. Bien que certaines ont été démolies, d'autres ont été simplement abandonnées alors que l'eau montait, avec parfois encore des objets sacrés à l'intérieur.
Ben voyons donc!
Ces lieux de culte, autrefois remplis de vie et de spiritualité, ont été submergés sans égard pour leur importance culturelle et historique. C'est possible que certains bâtiments, jugés non essentiels aux yeux du gouvernement, aient été laissés en place par souci de rapidité, l'accent étant mis, comme j'ai dit, sur l'inondation rapide de la zone plutôt que la préservation des structures. Pour les personnes qui étaient restées jusqu'à la montée finale des eaux, ça a dû être un spectacle complètement désolant et déchirant. Certaines histoires racontent que les maisons étaient entourées par les eaux croissantes avec les résidents essayant désespérément de sauver ce qui pouvait être sauvé. Les familles ont perdu non seulement leurs maisons, mais aussi leur communauté et leurs moyens de subsistance. Les rapports non officiels de l'époque évoquent des scènes de chaos et de confusion alors que les niveaux d'eau montaient, dépassant les prévisions et submergeant rapidement les zones non préparées. C'est étrange que la documentation sur un événement aussi monumental que la création du lac Lanier et le déplacement des résidents d'Oscarville soit si insuffisante. Ça soulève la question de savoir si le gouvernement, comme souvent, dissimule la véritable ampleur des abus et du traitement réservé aux habitants d'Oscarville. Aujourd'hui, sous les eaux troubles du lac Lanier reposent les vertiges de ces cimetières, églises, maisons et témoins silencieux d'un passé qu'on a tenté d'effacer. Les plongeurs qui explorent les profondeurs du lac rapportent parfois avoir vu des structures submergées, des vestiges de murs de pierre et même des tombes immergées. Ces restes servent de rappel poignant que le passé n'est jamais complètement enterré, même sous des millions de litres d'eau. Un passé tragique, une création complètement inhumaine et immorale, c'est sans surprise que le lac Lanier est devenu un lieu de mystère et de tragédie. Malgré la grosseur impressionnante du lac, il peut sembler assez modeste comparé aux géants comme le lac Michigan. En effet, près de 700 personnes ont perdu la vie dans le lac Lanier, un chiffre qui ne cesse d'augmenter, surtout ces dernières décennies. Le lac Lanier est quand même modeste en taille comparé aux géants comme le lac Michigan. Pour vous mettre en perspective, le lac Michigan, qui est colossal avec ses 494 km de long et ses 1000 km de rivage, affiche un taux de mortalité qui est bien inférieur malgré sa taille imposante. En moyenne, il enregistre environ 50 à 100 décès par an, un nombre qui paraît faible face à l'immensité de ses eaux. En revanche, le lac Lanier, avec sa taille beaucoup plus petite, affiche un taux de mortalité disproportionné. C'est un contraste qui met en lumière l'anomalie du taux de mortalité du lac Lanier et soulève des questions troublantes. Qu'est-ce qui rend ce lac-là aussi dangereux? Est-ce que c'est des courants imprévisibles, des ondes profondes ou des obstacles cachés qui expliquent ce nombre alarmant de décès? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus sinistre qui se cache sous la surface? Depuis les années 2000, le lac Lanier a attiré une attention croissante en raison de la montée inquiétante des incidents mystérieux et tragiques sur ses eaux. Alors que le lac avait été un lieu de loisirs populaire pendant des décennies, c'est au tournant du millénaire que des événements inexplicables ont commencé à émerger, attirant l'œil des médias et du grand public. Les rapports de disparition et de décès inexpliqués se sont multipliés, révélant la sombre facette de ce réservoir-là. Un événement marquant qui a intensifié cette attention médiatique a été le tragique décès du fils de la star du R&B Usher en 2012. Ce drame-là a été très médiatisé, évidemment, et a mis le lac Lanier sous les projecteurs de façon dramatique, amplifiant les préoccupations concernant la sécurité du lac. Les circonstances entourant cette tragédie ont fait couler beaucoup d'encre, attirant encore plus l'attention sur les dangers potentiels du lac. Au début des années 2000, des cas de noyades mystérieuses et de disparitions inquiétantes ont commencé à se faire de plus en plus fréquents, mettant en lumière des dangers que beaucoup pensaient être des légendes urbaines. Les histoires de personnes disparues dans les profondeurs du lac et de corps retrouvés dans des circonstances troublantes ont suscité des spéculations et des théories. À mesure que les histoires de ces incidents tragiques se sont répandues, le lac Lanier est devenu un point focal pour ceux qui cherchent à comprendre ce qui se cache derrière ces tragédies. Alors que les enquêteurs et les journalistes tentent de percer le mystère, le nombre de décès inexpliqués et les disparitions inquiétantes ont continué à croître, exacerbant la réputation déjà sinistre du lac. Cette attention accrue a révélé un motif inquiétant et une atmosphère chargée de mystère qui continue de fasciner et d'intriguer ceux qui cherchent à percer les secrets des eaux obscures du lac Lanier. Les noyades et les accidents d'embarcations motorisées sont les principaux responsables des tragédies qui s'y déroulent. Il n'y a pas de tendance évidente, ni de manière à prédire chaque année combien de vies le lac va prendre. Sous l'eau, les dangers sont nombreux. Il y a les débris laissés par la construction du lac, les bateaux coulés, les chaises-longues abandonnées, en passant par les fils de pêche, ça crée un véritable champ de mines sous-marin. L'accumulation de déchets couplée à une visibilité réduite rend les opérations de sauvetage extrêmement risquées. Et c'est pas tout. Il y a une autre théorie mystérieuse entourant le lac Lanier. Certains disent que ce lac est hanté. Non seulement le lac a une histoire très sombre que je vous ai racontée plus tôt, mais il se trouve également près du comté de Forsyth, qui faisait partie de la nation Cherokee. Le gouvernement a déplacé de force les peuples autochtones hors de leur foyer dans un voyage connu sous le nom de Trail of Tears selon l'Oxford American. Le lac Lanier a littéralement été construit sur les ruines d'Oscarville et sur les terres volées à la nation Cherokee. Le lac est vraiment un symbole des injustices infligées à des communautés entières. Et oui, le lac Lanier a été construit sur des terres qui faisaient partie autrefois du territoire Cherokee, avant même la création du lac en 1956, la région était habitée par les Cherokees, mais ils ont été déplacés de force au début du 19e siècle, comme j'ai dit plus tôt, lors de la Piste des larmes, Trail of Tears, la déportation massive orchestrée par le gouvernement américain. Ainsi, le lac est non seulement lié à l'histoire tragique de la ville d'Oscarville, mais aussi à l'expulsion violente des peuples autochtones comme les Cherokees qui vivaient autrefois sur ces terres. Derrière les eaux calmes du lac Lanier, c'est un passé troublé qui refait surface, un rappel que l'histoire ne peut être effacée. Certains habitants attribuent la responsabilité des phénomènes étranges aux fantômes connus sous le nom de Dame du lac, qui est une figure légendaire qui entrait les eaux du réservoir. Cette légende-là remonterait au tout premier décès survenu au lac Lanier. En avril 1958, il y a deux femmes, Susie Roberts et Delia May Parker Young, qui ont disparu après avoir quitté une danse à Dawsonville, en Géorgie. Un an plus tard, un homme qui est en train de pêcher sur le lac Lanier a découvert un corps flottant dans l'eau. Le cadavre, vêtu d'une robe bleue et sans main, était si décomposé qu'il ne pouvait pas être identifié. En 1990, des ouvriers réparant un pont au-dessus du lac Lanier ont trouvé une Ford sous l'eau, selon un rapport du New York Times publié après la découverte. La plaque d'immatriculation appartenait à Susie Roberts et ses ossements ont été retrouvés à l'intérieur du véhicule. Les autorités ont conclu que les femmes avaient accidentellement conduit hors du pont et le corps retrouvé dans l'eau 30 ans plus tôt devait être celui de Delia May Parker Young. En plus, des personnes qui ont circulé sur la route où la voiture de Roberts avait eu l'accident ont signalé avoir vu une apparition fantomatique d'une femme sans main, vêtue d'une robe bleue. C'est ainsi que Young est devenue la Dame du lac et certains croient qu'elle hante encore le réservoir, entraînant les nageurs vers leur perte. Depuis, plusieurs personnes prétendent avoir vu une femme en robe bleue sans main qui erre près du pont avant de disparaître dans les eaux du lac. D'autres visiteurs et habitants rapportent avoir vu des lumières inexplicables au-dessus du lac ou des silhouettes fantomatiques qui semblent flotter à la surface de l'eau. Certains affirment même sentir des mains invisibles les tirer sous l'eau pendant qu'ils nagent, ce qui amplifie la réputation sinistre du lac. Ces récits-là, combinés aux multiples noyades et accidents qui se produisent chaque année, renforcent l'idée que quelque chose de surnaturel hante les eaux. Pour beaucoup, ce n'est pas juste un lac, mais un lieu où le passé trouble de la région se mêle à des forces qu'on ne comprend pas entièrement. Beaucoup de gens affirment avoir vu des véhicules fantômes sous l'eau, particulièrement des voitures des années 1950 et 60. Certaines personnes racontent avoir aperçu des phares allumés sous la surface, mais lorsque des équipes de recherche se rendent sur les lieux, elles ne trouvent absolument rien. Ça fait écho à plusieurs accidents de voitures qui se sont produits au lac, notamment sur le pont du Dawson Highway. La journée la plus meurtrière de l'histoire du lac Lanier a eu lieu en décembre 1964. Le jour de Noël, une voiture transportant 11 personnes a dévalé le pont, de la même manière que Roberts et Young 6 ans plus tôt. L'accident a coûté la vie à 5 enfants et 2 adultes. Outre les véhicules, les pêcheurs parlent souvent avoir vu des corps ou des bateaux fantomatiques flotter à la surface avant qu'ils ne disparaissent soudainement. Ces bateaux-là semblent surgir de nulle part, souvent sans équipage visible, et se déplacent sur le lac avant de disparaître tout aussi soudainement qu'ils sont apparus. Une des histoires populaires raconte qu'un pêcheur aurait vu un bateau fantôme le suivre avant qu'il ne sombre dans l'eau sans laisser de traces. Comme si les véhicules et bateaux fantômes n'étaient pas suffisants, ils affirment aussi depuis longtemps qu'il existe d'énormes poissons-chats dans le lac qui atteignent des tailles de 5 à 7 pieds de long. Les poissons-chats peuvent varier en taille, il y a certaines espèces qui atteignent jusqu'à 3 mètres de long, mais selon mes recherches, je ne suis pas une pêcheuse, je n'ai aucune expérience en pêche, mais selon mes recherches, ça ne va pas plus grand que ça. Les pêcheurs du lac Lanier disent que les poissons fantomatiques sont capables d'avaler des chiens qui s'approchent trop près de l'eau et qu'ils attaquent même les nageurs et les plongeurs. Les poissons-chats géants seraient particulièrement attirés par les eaux profondes sous le barrage de Bufford et plusieurs plongeurs travaillant dans la région pour inspecter le barrage ou réparer des ponts ont rapporté avoir vu ces énormes poissons de leurs propres yeux. Juste pour vous donner une idée, un autobus scolaire, ça mesure environ 10 à 12 mètres de long, donc 5 à 7 mètres correspondraient à environ la moitié ou deux tiers de la longueur d'un autobus scolaire. Bref, toutes ces rencontres auraient été suffisamment terrifiantes, j'en doute même pas une seconde, pour que certains plongeurs refusent de retourner dans l'eau par la suite. L'une des histoires locales les plus populaires concernant ces prétendus poissons-chats géants parle d'un camion transportant des poules vivantes qui aurait plongé du pont Thompson dans les années 80, coulant au fond du lac avec sa cargaison. Des plongeurs ont été envoyés pour examiner l'épave et, à leur grande horreur, ont découvert des poissons-chats de la taille d'un garçon de 12 ans rassemblés autour du camion coulé, se livrant à une frénésie alimentaire en dévorant les poules entières. Mis à part les pêcheurs et les plongeurs, des visiteurs ont rapporté entendre des cris ou des chuchotements au milieu de la nuit près du lac. Certains disent avoir entendu des voix fantomatiques qui semblent provenir de sous l'eau, parfois même les appelant par leur nom. Ces bruits, couplés au son de coups ou d'éclaboussures alors que l'eau est calme, amplifient la sensation de malaise qui règne autour du lac. Beaucoup de survivants parlent avoir senti des courants étranges ou des forces invisibles les tirer sous l'eau. Les noyades mystérieuses alimentent les théories selon lesquelles des esprits en colère ou des forces maléfiques résideraient dans le lac cherchant à entraîner les vivants vers leur destin. Ça n'aide pas que les eaux du lac Lanier soient souvent sombres et troubles, rendant encore plus difficile la recherche des personnes disparues sous la surface. Comme l'a reporté CNN en 2020, le plongeur Buck Buchanan a un jour affirmé avoir ressenti des membres sous l'eau, déclarant, et je cite, ouvre la citation, vous plongez dans l'obscurité et vous touchez un bras ou une jambe et ça ne bouge pas. Ferme la citation. La réputation étrange et mystérieuse du lac Lanier n'est pas seulement due aux événements paranormaux, mais aussi aux accidents noyades étranges qui s'y passent et qui restent encore aujourd'hui irrésolus, qui font en sorte que le lac Lanier a cette réputation. L'un de ces cas-là concerne un habitant de Géorgie nommé Kelly Nash, 25 ans, qui a disparu de chez lui à Buford, en Géorgie, le 5 janvier 2015. Tôt ce matin-là, vers 4 heures, Nash s'est réveillé avec des symptômes grippaux tels que la toux et les éternuements et a dit à sa petite amie Jessica Sexton, présente à ses côtés à ce moment-là, qu'il se sentait très mal et qu'il devrait probablement consulter un médecin avant de retourner se coucher. Jessica s'est ensuite réveillée à nouveau à 7h30. Pour découvrir que Nash avait disparu sans avoir apporté son portefeuille, ses clés de voiture ni sa pièce d'identité. Quand elle a vu que Nash ne revenait toujours pas ce soir-là, la police a été alertée et il a été découvert qu'un pistolet de 9 mm manquait dans la maison, mais aucun des autres effets personnels de Nash n'était manquant ou déplacé. Une vaste recherche a été lancée pour retrouver Nash, impliquant les autorités, la famille et les amis, ainsi que des chiens spécialement entraînés pour repérer les cadavres. Il y a même une récompense de 50 000 $ qui a été offerte pour toute information. Malgré ça, aucune trace de l'homme ou de son lieu de disparition n'a été trouvée. Ce n'est qu'un mois après sa disparition étrange, le 8 février, que le corps en décomposition avancée de Nash a été retrouvé dans le lac Lanier par un pêcheur. Nash portait toujours le pantalon de pyjama et la chemise qu'il avait sur lui lorsqu'il a disparu, et bien que le corps ne semblait pas présenter de traumatisme majeur, il a été découvert qu'il avait reçu une seule balle à la tête. Le crime n'a jamais été résolu et il reste encore flou pourquoi il a choisi de sortir en pleine nuit dans ses vêtements de nuit. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé au lac? Est-ce qu'il s'agit d'un suicide, d'un acte criminel ou si la prétendue malédiction du lac y est pour quelque chose? Mais la mort de Nash n'a pas été la dernière ni la première des accidents étranges et des phénomènes inhabituels qui ont été associés au lac Lanier. Dans une autre affaire mystérieuse, une élève de 16 ans du lycée de Gainesville, Anna Truelove, a disparu près du lac Lanier en Géorgie le matin du 24 août 2012. Elle vivait avec sa mère dans un complexe d'appartements situé près du lac. Le lendemain de sa disparition, le corps d'Anna a été retrouvé dans une zone boisée en bordure du lac par un autre résident du complexe. La jeune fille avait été poignardée à plusieurs reprises, mais il n'était pas clair si les blessures étaient fatales et la cause réelle de la mort est restée floue, bien que les autorités aient pu exclure la noyade. Ce qui rendait l'affaire encore plus inquiétante, c'était une série de tweets qu'Anna avait publiés sur Twitter peu avant sa mort, exprimant un mécontentement général concernant sa vie dans le complexe d'appartements et sa peur d'un harceleur, avec un tweet particulièrement troublant où elle aurait écrit, et je cite, « Ouvre la citation, j'ai tellement peur en ce moment. » Ferme la citation. Le père d'Anna a plus tard affirmé que sa fille n'avait jamais mentionné être sous pression et n'avait pas paru différente ou plus contrariée que d'habitude dans les jours précédant sa disparition et sa mort. Les autorités n'ont malheureusement jamais pu obtenir d'informations ou d'indices à partir des tweets et malgré une enquête majeure, des entretiens approfondis avec les voisins et les résidents à proximité, aucun d'entre eux n'ayant vu ou entendu quoi que ce soit de suspect le jour en question, ainsi que des appels continus pour toute information concernant l'affaire. Aucune piste n'a jamais été trouvée et aucun suspect n'a été appréhendé. La mort d'Anna True Love demeure à ce jour un mystère. Bien que les histoires que je viens de dire puissent sembler mystérieuses, c'est important de se rappeler qu'elles ne sont pas nécessairement liées au paranormal. Les décès étranges autour du lac et sur le lac peuvent être souvent expliqués par des causes plus rationnelles telles que le suicide, meurtre ou des troubles de santé mentale. Malgré ces explications rationnelles, ces histoires continuent de nourrir la réputation mystérieuse du lac, y ajoutant une dimension intrigante et énigmatique. Aujourd'hui, on a plongé ensemble dans les lourds troubles du lac Lanier, révélant une histoire où l'ombre du passé continue de hanter le présent. Entre les rumeurs inquiétantes et les mystères non résolus, ce lac reste un lieu où réalité et légende se mêlent de manière troublante. Le silence des profondeurs cache des secrets que nous ne pouvons que deviner, mais une chose reste certaine, le lac Lanier continuera d'intriguer et de fasciner ceux qui cherchent à comprendre ses mystères.
Oh my god! Comme... Wow! De un, j'en reviens pas que j'avais jamais entendu parler de ce lac-là. De deux, wow! L'épisode était tellement bien monté, comme j'ai bu tes paroles à chaque moment. Je sais que j'étais plus silencieuse dans la deuxième partie parce que j'étais complètement choquée. On dirait que depuis que tu m'as parlé du fait que le lac a été créé dessus des maisons, puis surtout sur les cimetières, puis que les corps, genre je veux dire, pas juste les corps, mais comme même l'esprit de ces morts-là. On a tellement manqué de respect à l'esprit de ces gens-là, puis comme à la personne qui ont été quand ils étaient vivants, puis surtout à leur famille, encore en vie. Je suis complètement sous le choc. Je n'étais aucunement au courant de tout ce que tu viens de me raconter aujourd'hui, puis je suis vraiment, vraiment choquée. Je pense que on a fait un grand retour en force. Merci Noémie de nous avoir partagé cette histoire-là aujourd'hui. Comme à l'habitude, j'ai bu chacune de tes paroles puis t'as monté cet épisode-là avec brio, mais j'en reviens juste pas. J'aimerais savoir, genre, les gens dans les commentaires ou les gens qui se sont rendus jusqu'ici qui entendent ce commentaire-ci, je me demande, est-ce que vous auriez le courage ou juste comme, est-ce que vous baigneriez dans un lac dans lequel... sur lequel, je veux dire, il repose des cimetières et comme des anciennes civilisations, mais pas des civilisations, mais comme des anciennes maisons parce qu'il y avait des communautés qui habitaient là. Comme, en tout cas, je suis curieuse de savoir.
Oui, s'il vous plaît, allez nous répondre en commentaire, comme Jess dit, sur nos réseaux sociaux. Et Jess, pour continuer notre tradition, de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine? Il me semble que ça va être un sujet spécial.
Ben oui, on se retrouve très prochainement pour un épisode assez spécial. Ben oui, l'épisode spécial Zodiac. Vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas fait l'épisode du lion. Ben, on vous l'a préparé quand même et il s'en vient très bientôt dans vos oreilles. Donc, ben restez à l'affût pour le prochain épisode de...
Crème et cocktail.
Cheers, guys!
Chin, chin!